presidential candidate Ralph Nader. Then this Sunday, February 14th, is V-Day, a global day to end violence against women and girls. We'll speak to the activist and playwright V, formerly known as Eve Ensler, as well as the poet Aja Monet.
Dear Black women, do you have a story to tell? We are the poetic philosophers of an unseen world, the very language of difference and magic. This time demands our active listening and our critical storytelling for the world we want to see.
All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. House impeachment managers have concluded their case against former President Donald Trump, linking his campaign to undermine the election results with the statements of insurrectionists who attacked the U.S. Capitol January 6th. In closing arguments, Colorado Congressmember Joe Neguse pleaded with senators to vote to convict Trump.
Because if you don't, if we pretend this didn't happen, or worse, if we let it go unanswered, who's to say it won't happen again?
Trump's legal team begins its defense today. Lawyer David Schoen predicted it would take just 3 to 4 hours to present Trump's case, with the trial set to wrap on Saturday. On Thursday evening, three Republican senators, Ted Cruz, Lindsey Graham and Mike Lee, met with Trump's legal team in the Capitol, raising fresh doubts over their ability to serve as impartial jurors. After headlines, we'll air extended excerpts from Trump's second Senate impeachment trial and get reaction from longtime consumer advocate and multi-presidential candidate Ralph Nader. The United States reported nearly 3,900 new deaths from COVID-19 Thursday, pushing the U.S. death toll past 475,000, by far the highest in the world. Here in New York, the top aide to Governor Andrew Cuomo apologized to Democratic lawmakers this week for not initially reporting close to half of the 15,000 deaths at nursing homes and other long-term care facilities. Meanwhile, California has surpassed New York as the state with the highest death toll, with over 46,000 COVID deaths reported. Health officials in Los Angeles temporarily closed 5 vaccination centers Thursday, including a massive site at Dodger Stadium after the city ran out of vaccines. In Bethesda, Maryland, President Biden visited the National Institutes of Health, where he slammed Donald Trump's failure to prepare for mass vaccinations.
He didn't order enough vaccines. He didn't mobilize enough people to administer the shots. He didn't set up a federal vaccine centers where eligible people could go and get their shots.
President Biden says his administration has secured the 200 million vaccine doses from Pfizer and Moderna he announced last month, meaning there will be enough shots to inoculate 300 million U.S. residents by the end of July. Meanwhile, Stat News reports U.S. COVID-19 vaccination rates closely track with wealth, with the richest gaining access to vaccines at a faster pace than low-income people. The vaccine wealth gap has exacerbated racial disparities, with Black and Latinx people receiving far fewer vaccines proportionately than white people. This comes amidst warnings over growing global inequity in vaccine distribution. Duke University health researcher Andrea Taylor told The Washington Post, quote, "It remains to a large degree a zero-sum game, which means that every dose that goes to the U.S. or the U.K. or an EU country is a dose that's off the shelves, and the shelves aren't going to be restocked for a while." The New York Times reports former President Trump was far sicker with COVID-19 last October than previously reported, with extremely depressed blood oxygen levels and compromised lungs due to viral pneumonia. The Times reports Trump was taken to Walter Reed National Military Medical Center after officials believed he would need to be put on a ventilator. Trump ultimately recovered after an aggressive treatment that included a monoclonal antibody cocktail, which at the time was unavailable to members of the general public. In Afghanistan, gunmen attacked a United Nations convoy on the outskirts of Kabul, killing five Afghan security force escorts. A government official said the Taliban was suspected, but they denied involvement. Around the country, there were multiple other reports of deadly violence in Afghanistan Thursday, as well as non-fatal shooting of journalist Qutbuddin Khuji. Intra-Afghan peace talks have largely stalled, according to officials. Over two dozen lawmakers are calling on President Joe Biden to consider the devastating impacts of harsh U.S. sanctions on countries around the world, particularly the coronavirus pandemic. During this time, the lawmakers write sanctions have, quote, harmed civilian populations, caused authoritarian governments to further constrict civil spaces and repress civil and political rights, squeeze the ability of humanitarian organizations to provide support during crises and disasters, and made basic staples prohibitively expensive, unquote. In his first week in office, Biden said his administration would review all U.S. sanctions currently in place. In related news, the Justice Department said this week the U.S. has sold over a million barrels of Iranian fuel seized by civil forfeiture as part of its sanctions campaign. U.S. officials say they seized the oil last year from tankers headed from Iran to Venezuela. The money will be transferred to the U.S. Victims of State-Sponsored Terrorism Fund, according to a Justice Department spokesperson. China's banned the BBC's World News Channel after British authorities revoked the license of the state-run Chinese broadcaster CGTN. The move was largely symbolic because the BBC was already unavailable to the vast majority of China's population. In immigration news, BuzzFeed reports asylum seekers forced to stay in Mexico by the Trump administration will soon be allowed to start entering the U.S. Efforts to phase out Trump's Remain in Mexico program are expected to begin within the next 2 weeks. Immigrant rights activists are calling for President Biden to fully abolish the policy. The program has forced tens of thousands of asylum seekers to wait in dangerous conditions in crowded and squalid refugee camps across northern Mexico while their cases make their way through U.S. courts. In related news, the Biden administration's canceled a Trump-era national emergency order to allocate government funding for the construction of the U.S.-Mexico border wall. This comes as immigrant justice advocates continue to denounce President Biden's interest in ramping up surveillance technology at the southern border, which opponents refer to as a virtual wall. A warning to our viewers, the following stories contain disturbing footage and descriptions of violence. In Texas, authorities are searching for a tanker truck in the San Antonio area where some 80 migrants may be trapped. In a chilling 911 call Monday, a man speaking in Spanish told the dispatcher they were struggling to breathe. "We can't see anything, God. We have no oxygen," the man said. Other people are heard screaming for help in the background. A recent court filing in the 2010 case of Anastasio Hernandez Rojas, a Mexican man who was beaten and shocked to death by border agents, reveals the current head of Border Patrol, Chief Rodney Scott, was part of efforts to protect the agents involved and interfere with the criminal investigation. Rojas lay on the ground handcuffed at the San Isidro port of entry in San Diego as agents beat him with batons and shocked him with a stun gun. He died at the hospital several days later. The case is currently under review by the Inter-American Commission on Human Rights. It's the first time the commission has looked into an extrajudicial killing at the hands of a U.S. law enforcement agency. A grand jury in Buffalo, New York, has cleared two police officers who assaulted the 75-year-old racial justice protester last June named Martin Gugino. A longtime peace activist, he suffered a brain injury, a fractured skull, and spent a month in the hospital after being shoved to the ground by police. A video of the incident quickly went viral. In Rochester, New York, disturbing new video has been released of the moments after police handcuffed and pepper sprayed a 9-year-old black girl last month.
Officer, please don't do this to me.
You did it to yourself, hon.
It's burning my eyes.
Yep, that's the point of pepper spray. The ambulance is on their way and they will clear your eyes out.
The pepper spray is burning my eyes.
The Rochester Democrat and Chronicle newspaper reports it took about 15 minutes for an ambulance to arrive, and the 9-year-old girl was left handcuffed for 23 minutes. The officers involved were suspended pending an investigation. One of the things the little girl said to the officers when they said, "You're acting like a child," is, "I am a child." In Aurora, Colorado, a police officer was fired Thursday for use of excessive force during an arrest last August. Officer Robert Rosen punched and tased a trespassing subject multiple times inside a supermarket as the man lay on the floor. In Los Angeles, the family of Dijon Kizzy, a 29-year-old black bicyclist who was shot to death by sheriff's deputies last summer, has filed a $35 million claim for damages. Kizzy was shot 16 times after being pulled over for an alleged bike violation. His family says the sheriff's department failed to properly train its deputies and the officers used unreasonable, deadly force. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org.
Bien, en fait, c'est un bâtiment, évidemment, qui est fait sur le long. Donc, on a l'impression d'être sur un grand navire.
Le bâtiment 7 s'inscrit vraiment dans cette démarche de ce qu'on pourrait appeler des centres sociaux, ou du moins des espaces d'autonomie.
Donc, fait sur le long, un paquebot. L'entrée principale du bâtiment est sur le côté du paquebot, mais le nez du paquebot donne sur une place publique.
Un espace par et pour une collectivité, en fait. Et cet espace-là a pour première mission de se retirer de certaines structures de contraintes que peut imposer, en fait, la société dans laquelle il est pris.
Quand les gens vont arriver vers le bâtiment 7, ce qu'ils ont en face d'eux, c'est en fait le nez de ce grand bâtiment-là.
Un espace de création où est-ce que le collectif peut expérimenter un nouveau vivre ensemble, ou du moins de nouvelles relations, et de préfigurer une société dans laquelle il souhaite et espère vivre.
Si on est trop près du bâtiment, si on est collé, mettons, à, je dirais, mettons, 5 mètres à droite du bâtiment, bien, on ne peut pas voir jusqu'où s'arrête le bâtiment. On peut pas voir, pratiquement pas voir la fin, tellement c'est long.
À la pointe de la pointe Saint-Charles se dresse un grand bâtiment rouge, dont je ne soupçonnais même pas l'existence.
Quand les ateliers ferroviaires ont fermé leurs portes en 2003, bien évidemment, on se retrouvait avec plein de bâtiments, vieux bâtiments industriels.
Marcel Sévigny, un habitant de longue date de la pointe Saint-Charles.
Le propriétaire du bâtiment en question a démoli, en fait, de façon illégale, en fait, une partie de ce bâtiment-là. Et ça a mis un peu le feu aux poudres parce que 6 mois avant, il y avait eu des consultations publiques et les gens de la communauté voulaient le conserver.
Marcel Sévigny est aussi membre d'un collectif de citoyens très actifs et soucieux du bien-être social de son quartier.
Il y a un comité d'urgence qui a été mis sur pied, puis la seule revendication qui est venue sur la table, c'est ce bâtiment-là doit nous appartenir et gratuitement.
Notre collectif porte le joli nom de 7 à nous, 7 comme le chiffre. Ce nom ne vient pas de nulle part. C'est précisément du désir impérieux qu'a ressenti le collectif de récupérer l'immense édifice désaffecté en train d'être démoli pour y installer des services de proximité. Ça semble intéressant. Alors justement, en ce 24 février 2018, me voilà rendu au sein même du bâtiment 7, qui n'est pas démoli, mais bel et bien en chantier. Et je vois une foule qui palpite. Les membres du collectif 7 à nous, juchés sur une petite estrade, ont des informations importantes à communiquer.
Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre pour cette journée aussi significative. Puis j'ai envie de vous dire bienvenue chez vous. Pendant 10 ans avant cette assemblée-là, en fait, on avait tenu le fort du collectif C'est à nous à une dizaine de personnes, tous âges et milieux réunis. On a plongé dans une grande lutte de quartier, pas juste avec nous, mais avec d'autres membres 2009 à 2012. Puis après ça, bon, on a tenu le fort et les années qui passent, et l'attente sans fin. Finalement, on a réussi notre pari. Ce qui est à ouvrir prochainement, ça a deux facettes. Donc, d'un côté, il y a les 13 projets. Et vous allez les voir, ils ont chacun leur couleur, ils ont chacun leur défi, chacun leur force d'implication, ils ont chacun des personnes qui les portent. C'est des services de proximité, des ateliers partagés. On a aussi, au-delà de ces 13 projets-là, un projet d'ensemble, un écosystème qui est plus grand que la somme de ses parties, un milieu de vie, en fait, qui est ouvert à la participation de tout le monde et qui appartient définitivement à un quartier.
Voilà une nouvelle réjouissante. Un large édifice plongé dans le silence depuis de nombreuses années va renaître et s'offrir tout entier au quartier. Son épanouissement va se faire progressivement car les travaux sont de taille. Mais dans un premier temps, ce sont 13 services de proximité qui vont voir le jour, des ateliers artisanaux où les gens pourront tout bonnement s'investir. mécanique de vélo et d'automobile, impression numérique, photographie, sérigraphie, céramique, boiserie, métallurgie, théâtre, jeux vidéo et même une épicerie communautaire ainsi qu'une microbrasserie. Mes questions demeurent. Dans quel contexte et comment une aussi belle initiative a-t-elle pu voir le jour ? J'ai aussitôt grimpé sur mon vélo pour aller parler avec un certain Marc D. Lachapelle, chargé de cours à HEC Montréal et qui a suivi de près la constitution de ce projet citoyen d'envergure.
Ce projet-là, c'est un projet qui est fait par et pour la communauté, qui est mené dans un objectif de se réapproprier un certain bâtiment, un certain terrain, une certaine autonomie aussi collective. Par contre, cette réappropriation-là a lieu dans certaines structures de contraintes, donc aller chercher des permis, respecter des certaines normes de bâtiment, au niveau de la structure juridique de l'organisation, au niveau du financement, donc ces structures-là qui peuvent parfois rentrer en confrontation avec les idéaux du collectif, eh bien ça vient poser plusieurs questions éthiques, plusieurs dilemmes au sein d'un collectif qui se définit comme alternatif, certains anticapitalistes, anarchistes. Le projet, en fait, est à la fois pris à l'intérieur de cette société-là, essaie d'agir contre et d'aller au-delà de ça. Donc, ces trois positions-là en même temps font en sorte qu'il y a plusieurs enjeux qui vont ressortir. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'un point de vue organisationnel, comment le collectif arrivait à mettre en œuvre leur vision du projet, à préserver leurs idéaux, tout en étant pris dans cette société-là.
Alors, Marcel Sévigny, qui est dans le projet du bâtiment 7 depuis ses tout débuts, entreprend de me raconter comment s'est passée l'obtention de ce grand bâtiment par un petit groupe de citoyens.
Ça, c'est vraiment une histoire qu'on a racontée, en fait, dans un petit bouquin qu'on a publié en 2013. Donc, dans un premier temps, les élus municipaux qui étaient là à la tête au moment où ça s'est enclenché, le bras de fer avec le propriétaire. Donc, on pouvait dire que les élus municipaux étaient bras dessus avec le propriétaire. Et donc, on a politisé, en fait, le dossier. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'automne 2009, la vieille équipe d'élus municipaux ont été complètement balayés au profit d'une autre équipe, peut-être un peu plus ouverte, et qui ont fait des promesses, on va tenir compte de votre revendication, de l'obtention du bâtiment, etc. Et dès le lendemain des élections, on est retourné à l'arrondissement. Et pendant, on a continué à faire des pressions de façon importante. Et 7 mois plus tard, donc en juin 2010, on a réussi à faire en sorte que les élus de l'arrondissement ont adopté une résolution comme quoi le bâtiment 7 devait être cédé à la communauté.
Le groupe MAC, pour pouvoir procéder à son changement de zonage, donc de passer à un zonage commercial ou industriel à résidentiel, devait, selon l'accord de développement qui a été signé suite à plusieurs années de mobilisation populaire, devait céder le bâtiment 7 à la collectivité. Le collectif avait un accord signé avec le promoteur, le groupe MAC, et il manquait seulement l'approbation de la ville de Montréal. Or, pendant plusieurs mois, le collectif se retrouvait sans information de la ville. Donc, c'est vraiment un silence radio où est-ce qu'on ne pouvait pas savoir bien, qu'est-ce qui faisait en sorte que le projet bloquait. Ce qui est très inquiétant, mais aussi, comme on ne peut pas se situer dans une horizon pour mettre en œuvre le projet, bien, à ce moment-là, on se retrouve justement dans une espèce de flou qui est très difficile à vivre. Mais à ce moment-là, on a vraiment eu un débat. Est-ce qu'on rentre dans une stratégie de confrontation, c'est-à-dire on occupe illégalement le bâtiment pour faire pression, ou est-ce qu'on rentre dans une logique encore de négociation, ou du moins de pression politique, qui pour le moment ne menait pas à grand-chose? Pour plusieurs membres, en fait, la logique de confrontation pouvait être vue comme étant problématique, c'est-à-dire, en rentrant dans une logique de squat, il se peut que la ville discrédite le projet. Donc, il y avait vraiment une discussion et une tension entre différents membres pour savoir quelle stratégie on mettait de l'avant. Il y a une espèce de décision un peu floue qui a été mise de l'avant, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on va lancer un ultimatum à la ville de Montréal sans nécessairement dire qu'est-ce qu'on ferait. Ça permettait en sorte de concilier les deux positions, de mettre une certaine pression sur la ville, mais toutefois en gardant un flou afin de préserver en fait la cohésion du groupe.
On avait annoncé que tous les moyens seraient utilisés pour être capable d'aller chercher finalement le bâtiment. Comme on était un peu connu, bon, on avait occupé un bâtiment, etc., puis on redoutait beaucoup finalement l'occupation. Le 22 octobre, c'était signé, donc c'était vraiment la victoire politique était consacrée. Là, il a fallu continuer à faire des pressions, autant sur le propriétaire que sur l'arrondissement, parce que le propriétaire, il essayait finalement d'utiliser toutes sortes de moyens pour retarder la cession formelle du bâtiment. Bon, pour éviter qu'on continue à déprimer sur cette situation-là, à l'automne 2015, le petit groupe de militants qui restait, on a adopté une stratégie. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on agissait comme si on était maintenant propriétaire. Provoquer la situation pour que la situation débloque. Avec les années, avec le temps, je dirais, dans les milieux dans lesquels on était en contact, politiquement, socialement, on avait une certaine audience au sens politique du terme, où on est capable d'agir, de faire des actions directes, de perturber le paysage politique, etc. Et ça joue un peu dans la balance. Et c'est seulement en avril 2017 qu'on a obtenu ce qu'on nous on appelle les clés pour entrer là-dedans.
J'aime le bâtiment 7 d'amour depuis une couple d'années, mais je suis pas la seule. On est plusieurs dans cette salle-là à y avoir cru puis à avoir fait en sorte qu'on est capable de se rendre ici aujourd'hui.
On sauve un bâtiment de la démolition puis on se l'approprie. La logique, c'est de dire bon, on a un bâtiment, il faut faire quelque chose avec ça. Donc.
La première étape cruciale d'obtention du bâtiment, on l'a compris, fut longue mais à succès. Maintenant, il s'agit de comprendre comment le collectif va penser concrètement la réalisation du projet qu'il espère tant voir vivre en ces lieux.
Bâtiment 7 se retrouve avec un estimé de 8,4 millions de dollars pour la réfection du bâtiment. Donc, la grande question se pose, comment qu'on fait pour récolter ces 8,4 millions de dollars-là sans nécessairement rentrer dans une logique de participation au marché capitaliste, c'est-à-dire aller chercher des prêts à intérêt et par la suite refiler ces coûts-là supplémentaires aux occupants du bâtiment 7. Donc, il y a vraiment un exercice de réflexion qui se fait sur quel type de financement correspondrait aux idéaux du bâtiment 7. Et à ce moment-là, vraiment, plusieurs idées sont mises de l'avant jusqu'à même la fin du projet pour pas justement créer un projet qui s'éloigne des valeurs initiales. Le collectif Bâtiment 7, assez tôt dans son processus, s'est doté de comité vision. Et ce comité vision-là joue vraiment un rôle un peu de chien de garde, c'est-à-dire qui, en fonction des valeurs du projet, va regarder les différentes actions qui sont prises et va venir dire, en fait, au comité de coordination, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un lien? Ou en ce moment-là, on est en train tranquillement de s'éloigner du projet imaginé par la collectivité? On se situe sur une échelle temporelle qui est très, très longue. Le collectif se crée en 2008 et 10 ans plus tard, en 2018, on parle d'investiture vraiment à l'intérieur du bâtiment. Donc, sur 10 ans, est-ce que les besoins de la communauté de Pointe-Saint-Charles ont évolué? Est-ce que ce qu'on imaginait du bâtiment 7 est encore adapté à la réalité de Pointe-Saint-Charles? Donc, vraiment, ce comité vision-là va à la fois regarder les actions qui sont mises là-bas, mais aussi questionner les valeurs du projet.
C'est la question de créer une dynamique collective qui rend plus concrète ou tangible l'appropriation d'un bâtiment. Un système de fonctionnement démocratique basé beaucoup sur l'horizontalité, donc l'autonomie, etc., donc qui est un peu la caractéristique du projet ici.
Une des réflexions que plusieurs membres avaient, c'était cette idée de propriété collective. En fait, c'est vraiment dans une logique d'opposition à la propriété privée. Donc, beaucoup plus penser le bâtiment 7 comme un commun et qui est géré comme un commun par les membres qui occupent le bâtiment.
comme tel, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné en arrivant à Pointe-Saint-Charles. D'un, évidemment, l'implication citoyenne qui est exemplaire. Je veux dire, ici, on peut pas parler de bénévole, le terme n'est pas vraiment assez fort. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire comme des motivés vainqueurs qui travaillent gratis, qui sont prêts à donner autant de leur temps. La deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est vraiment l'intelligence collective. À réfléchir ensemble, c'est plus long, mais quand ça aboutit, ça donne un projet alternatif, ambitieux, comme celui du bâtiment 7.
À présent, la question même des travaux d'aménagement est intéressante, car le collectif n'a pas seulement engagé des professionnels. Il lui tenait à cœur que dans un but communautaire, les citoyens puissent également prendre part au chantier.
Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Parent, puis je m'occupe de la coordination des travaux. Confier les travaux qui étaient assujettis à la loi R20 à des détenteurs de certificats de compétences, à des gens de métier, c'était vraiment une garantie pour nous d'avoir un rendu puis d'avoir une qualité de travail. Ceci dit, c'est pas toutes les tâches qui nécessitent le même niveau de compétences. Et alors, sur des tâches qui le permettaient, encore une fois dans le cadre réglementaire, ben le chantier est aussi une opportunité d'impliquer des gens de la communauté, des gens qui soutiennent le projet, des gens du quartier, un paquet de personnes qui, pour différentes raisons, avaient envie de s'impliquer avec nous, ben ça a été une porte ouverte là, pour bénéficier de cette implication-là. Et ça offre un appui significatif au projet dans le sens où, au niveau financier, ben ça fait une prestation de travail qui, elle, vient vraiment avancer le projet dans son échéancier, tout en ayant finalement l'occasion de tisser des liens plus grands avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui sont prêts à appuyer le projet. On a été étonnés du nombre de gens qui ont répondu à l'appel. On a fait des soirées où on accueillait justement des bénévoles pour leur présenter le projet et les types d'implications qui étaient possibles. À chacune des fois, on a été surpris là, du nombre de gens qui se sont présentés. Et sur une base quotidienne, mais on bénéficie de la présence de bénévoles. Donc, ça vient compléter le travail qui est fait autant par les gens qui étaient salariés que par les futurs occupants qui, eux, préparent leurs locaux. Donc là, on a l'appui des bénévoles qui, eux, viennent donner un coup de main. Ça devient véritablement un effort collectif. Je pense qu'on gagne beaucoup en confiance. On développe définitivement une puissance à s'organiser comme ça sur des bases horizontales entre nous. C'est quelque chose de précieux. La solidarité entre les gens, l'appui mutuel qui font qu'on est plus qu'en train de faire un job, on est en train de faire un projet de vie, quoi. J'ai travaillé comme charpentier-menuisier là dans l'industrie de la construction. Auparavant, j'ai été aussi conseiller syndical dans l'industrie de la construction pour la CSN. Donc ça m'a donné un meilleur maîtrise, si on veut, du cadre réglementaire, ce qui a permis là de jouer nos cartes, si on veut, dans le bon ordre, puis d'avoir un chantier où on était confiant d'être dans la conformité. Donc là, on a mené nos travaux, ça a super bien été. Puis fort de cette expérience-là, on pense éventuellement pour les prochaines phases de développement de la bâtisse, renouveler l'expérience.
D'un point de vue de la grosseur du bâtiment et de l'initiative, c'est un espace d'autonomie où est-ce que ça va être possible de réfléchir, transformer, préfigurer une société alternative, une tentative de transformation ici et maintenant, donc vraiment dans une logique de transition.
Le souhait de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se créent éventuellement, en fait, ces réseaux-là de contacts plus formels, d'échanges, de pratiques, de réflexions, en fait, toutes sortes de choses comme ça. Peut-être qu'à Montréal, je dirais, le BCEP va peut-être être un point de mire important et surtout de propager l'idée que c'est possible d'organiser quelque chose un peu partout dans les quartiers.
Le problème de plusieurs projets alternatifs, c'est lorsqu'il arrive, puis ça revient aux structures de contraintes, lorsqu'on arrive sur soit des négociations avec la ville, au niveau des permis, au niveau du financement, bien, le projet ne fit pas dans une case. Suite à un projet d'envergure comme le bâtiment 7, Ça arrive qu'il y a soit une nouvelle case qui est créée ou du moins qu'il y a une espèce d'espace qui se crée. Et à ce moment-là, le chemin est ouvert. Plusieurs autres initiatives vont pouvoir suivre cet exemple-là. Dans les dernières années, on a Cabane 77 dans le quartier Mylène. Tout récemment, en fait, il y a l'hôpital chinois dans Villeray. Après 20 ans d'abandon, il y a un comité citoyen qui s'est formé en début d'année 2018 pour pouvoir reprendre possession de cet édifice abandonné et de faire un projet justement pour la communauté de Villeray. À Saint-Henri, il y a un projet aussi d'autogestion, un centre social autogéré avec une ancienne caserne de pompiers, la caserne 24. Donc, il y a vraiment une espèce d'effervescence de projet qui ressemble au bâtiment 7. Pointe-Saint-Charles a quand même une historique d'activistes qui date depuis le 20e siècle pour une collectivité qui a été souvent délaissée par la municipalité, par aussi les différents gouvernements provinciaux et fédéraux. Cet héritage-là de Pointe-Saint-Charles a vraiment fait en sorte que le bâtiment 7 a pu se réaliser au-dessus de 10 ans, en fait.
Voilà, on est dans ce milieu bouillonnant. Voilà.
Le bâtiment 7 ouvre joyeusement ses portes le 7 mai, c'est-à-dire aujourd'hui même. Un projet utopique est maintenant accessible. Épicerie communautaire, microbrasserie conviviale et ateliers pratiques artisanaux et artistiques prennent vie au même endroit.
Le plus beau dans cette histoire-là, selon moi, en fait, c'est que le pôle des pratiques, ben, ça fait juste 20 000 pieds carrés. Puis qu'il va en rester 70 000 autres à développer, puis qu'on a une liste très, très longue de d'autres choses qu'on a besoin d'implanter pour favoriser notre autonomie collective de quartier et même au-delà.
Magnéto-balado.com. If only I could find myself, I would be all right. Thank you.
I slept too little and drank too much.
What's my hypnosis anyway? You get out of bed like this? Oh, Christ.
Rise and shine with CKUT 90.3 FM.
CKUT, Henry Grimes, and stay tuned for more of the most aesthetic things, feelings in the world.
The productions Nuit d'Afrique and TD Bank Group are proud to present a musical encounter between Africa and First Nations with Mi'kmaq-Africa, Jele Tapa and Anak Nid on the stage of the Nationale and broadcast live on Nuit d'Afrique's Facebook page, Friday, February 26th at 8 p.m. More info at productionsnuitdafrique.com.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
The alert level in your region or a neighboring region is red. To curb the spread of COVID-19, gatherings with family and friends are prohibited, and travel between regions should be avoided. In red zones, it's also forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. Visit quebec.ca/coronavirus to learn more about the specific measures addressing the situation. Follow all the rules, all the time, no exceptions. A message from the gouvernement du Québec.